Bomdia, Abregado, je ne sais pas, moi je me sens obligé de parler en portugais. Mais c'est quoi cette histoire, Enrique? En fait, tu monopolises 24 heures sur 24 l'antenne de Graphite. C'est pas possible. Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Écoutez, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Enrique a rendu l'antenne, je dirais, de façon totalement classique et normale. Il a appuyé sur les boutons comme il le fallait, il m'a laissé la place. Et pendant ce temps-là, on entendait dans le studio la voix d'Enrique qui recommençait son émission automatiquement. On n'a pas compris. Apparemment, il y a un petit, je ne sais pas, ça va être notre logiciel qui nous fait les siennes. Ou alors, notre logiciel est tellement fan de VibreOS qu'à mon avis, il tourne en boucle et on s'en rend pas compte. Moi, je n'écoute pas Graphite nécessairement en pleine nuit, mais peut-être qu'à 4 heures du matin, le logiciel se fait plaisir. J'en sais rien. Enfin, je vais essayer. À un moment, il va falloir qu'on trouve un petit peu la raison de tout ça. Écoutez, tant mieux. Bon, alors, moi, du coup, ça m'a permis de, hop, de prendre l'antenne comme ça d'une façon totalement acrobatique. Nous sommes en direct et bienvenue à tous. Je m'appelle Jean-Noël. C'est l'émission Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Pendant une heure, entre 12h et 13h, on va feuilleter un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique. Il y a pas mal de choses en ce moment et on va parler notamment de VivaTech qui a lieu en ce moment même. Et on ne parle que de l'intelligence artificielle. Il y a cette espèce de mode, en fait. Il y a quelques années, on avait d'autres sujets sur cette antenne. Et là, depuis un certain temps, c'est l'intelligence artificielle, on en parle régulièrement. Mais alors, cette semaine, ça n'arrête pas parce que tout le monde se prend la tête sur cette intelligence artificielle. On fera le point dans cette émission. Vous souhaitez réagir en direct au 06 95 065 026, 06 95 065 026. Si vous souhaitez envoyer des SMS, n'hésitez absolument pas, genre envoyez-nous des SMS en disant « Remettez-nous Enrique parce qu'on n'en peut plus de la science, c'est tellement anxiogène !» C'est vrai que moi, en fait, souvent, mais je sais pas, il y a des, c'est par époque, en fait, par période, c'est pas toujours réjouissant, la science. Là, cette année, enfin, en tout cas, pour cette émission, pardon, aujourd'hui, on va quand même essayer d'avoir un point de vue plutôt positif de ce qui se passe au niveau de l'actualité scientifique. Aujourd'hui, le 25 mai, il fait très beau sur Compiègne. Pareil que ça va pas durer, mais bon, on va en profiter. Donc, vous nous écoutez peut-être dehors, hein, vous avez bien raison, vous êtes en train peut-être de préparer à manger, voire de déjeuner, donc je vous souhaite un bon appétit. Ou vous êtes peut-être en train de vous lever parce que c'est la rediffusion le mardi matin à 10h, donc je vous souhaite une bonne matinée si vous écoutez cette émission pour la rediffusion. Pour ce 25 mai, l'éphéméride, eh bien, il n'y a pas grand-chose au niveau science et technologie. Pour le 25 mai, il y a eu en 1842 Christian Doppler qui présentait un article sur la lumière colorée des étoiles doubles et d'autres étoiles du ciel. En fait, il a présenté ça à l'Académie royale des sciences de Bohème à Prague. Christian Doppler. Ah, mais Doppler, oui, ça nous dit vaguement quelque chose. Effectivement, c'est lui qui a établi la théorie de l'effet Doppler et en 1842, il présente cet article à l'Académie royale. Beaucoup plus proche de nous, en 2017, c'est le premier tiers d'essai depuis la Nouvelle-Zélande du lanceur spatial Electron en 2017. Naissance un 25 mai 1812 de Filippo Pacini. Oh, il doit être italien, celui-là. Oui, effectivement, c'est un anatomiste italien. Il est devenu célèbre après sa mort parce qu'il avait isolé le bacille du choléra. C'était en 1854. Et en fait, son nom, on l'a un petit peu perdu de vue parce que 30 années après, c'est Robert Koch ou Koch. Alors, ça dépend comment on le prononce à l'allemande ou pas. Mais le fameux bacille de Koch. Et il va, Robert Koch, refaire cette découverte avec un petit peu plus de succès dans l'opinion et dans la communication, bien évidemment. Donc n'oublions pas le nom de celui qui l'a isolé en premier, ce bacille du choléra. C'est Filippo Pacini, qui est donc né un 25 mai 1812. Il meurt en 1883 à Florence, dans un hospice de pauvres. En fait, il était ruiné par ses recherches scientifiques. Il avait également deux sœurs malade et donc il avait le peu d'argent qui lui restait était consacré pour soigner ses deux sœurs malades et il meurt donc totalement ruiné et et son nom qui est aussi un petit peu disparu, celui de Filippo Pacini. Décès d'Alexandre Fabre, il est décédé un 25 mai 2005, ingénieur et physicien français, professeur émérite à l'Université de la Méditerranée, membre de l'Académie des sciences. Alexandre Fabre, il est particulièrement renommé pour ses travaux sur les états de turbulence. Voilà pour cette éphéméride. Oui, il n'y avait pas grand-chose, effectivement, pour l'éphéméride, mais que voulez-vous ? Ça arrive parfois, c'est comme ça. Alors, on va donc un petit peu feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On va parler notamment de VivaTech qui a lieu en ce moment à Paris. Je voulais juste revenir sur une information qu'on avait évoquée. Je ne me rappelle plus, je pense que ça va être pendant une émission d'avril où on avait parlé de cette greffe de rein de porc qui avait été greffée sur un homme. C'était en fait un grand espoir de ce qu'on appelle la xénogreffe pour des millions de personnes dans le monde. Eh bien, 2 mois à peu près après avoir marqué l'histoire de la médecine en devenant justement ce premier patient greffé d'un rein de porc génétiquement modifié, on a appris le décès de Richard Selman à l'âge de 62 ans. Alors, rien n'indique qu'il s'agisse d'une conséquence de sa récente transplantation, c'est ce qu'a précisé l'hôpital du Massachusetts dans un communiqué. Son cas, en fait, avait marqué une avancée majeure dans le domaine de ce qu'on appelle la xénotransplantation. L'idée, c'est d'utiliser des organes animaux pour les transplanter chez l'homme. Xénogreffe, on a donc ce comment on appelle le premier terme, le xéno, qui signifie étranger, donc on est bien sur une greffe d'espèce étrangère, entre guillemets. C'est ça qui est totalement la révolution, parce qu'une greffe d'un organe humain sur un autre humain, on sait faire. Une greffe d'un organe animal, et en l'occurrence là, un organe de porc sur un humain, c'était quand même quelque part un exploit. Donc cette idée de xénogreffe, on a le terme de xénophobe, par exemple, pour peur de l'étranger. Donc ce côté greffe avec une espèce étrangère, ça n'a pas fonctionné, oui et non, parce que quelque part, on ne sait pas trop précisément si le décès est dû à cette xénogreffe. Il n'empêche que ça a été quelque part une véritable avancée. Le rein de porc qui avait été utilisé, on l'avait génétiquement modifié avant. L'idée, c'était d'éliminer les gènes du porc qui pouvaient être potentiellement nocifs pour l'homme, pour le malade, et puis ajouter des gènes humains. L'idée, bien sûr, c'était de diminuer les risques de rejet de l'organe. L'exploit avait été rendu possible grâce à une technologie qu'on utilise de plus en plus, qu'on a déjà évoquée dans cette émission, qui s'appelle la technologie CRISPR-Cas9. En fait, c'est l'idée d'avoir quelque part des ciseaux génétiques qui nous permettent, alors je schématise, mais c'est pour essayer de mieux comprendre, on coupe quelque part l'ADN, on coupe les gènes en enlevant ce qui ne nous convient pas et en mettant ce qui nous convient. Donc ça devient après un organisme génétiquement modifié. Ça permet de cibler des gènes vraiment spécifiques à modifier dans le génome du porc donneur. Alors, Richard Selman sera à jamais considéré comme une lueur d'espoir pour d'innombrables patients transplantés dans le monde entier, et nous lui en sommes profondément reconnaissants de sa confiance et de sa volonté de faire progresser le domaine de la xénotransplantation. C'est ce qu'a salué donc l'hôpital du Massachusetts. En France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 18 000 patients en insuffisance rénale sévère qui attendent un nouveau rein. Il y a 500 personnes qui meurent tous les ans faute d'organes disponibles. Donc voilà, ce premier receveur d'une greffe de rein de porc, on a appris son décès il y a quelques jours. Mais voilà, c'était important dans cette émission de revenir sur cette expérience. Cet exploit, peut-être quelque part, on peut utiliser ce terme, effectivement, parce que ça donne des perspectives vraiment intéressantes, bien évidemment. Alors, on va parler, il est 12h10 sur l'antenne de Graphite, vous êtes en direct, donc si vous souhaitez réagir par SMS 06 95 065 026, 06 95 065 026, je suis en train de chercher sur mon téléphone pour ne rien vous cacher, c'est pour ça que je voulais avoir les dernières informations concernant VivaTech, c'est le plus grand événement start-up et tech, technologie d'Europe. C'est VivaTech qui permet non seulement de rencontrer les principaux acteurs, mais de décrypter les nouvelles tendances et comprendre un petit peu l'impact de ces nouvelles technologies sur l'économie et sur la société. Alors, ça a lieu à Paris, Porte de Versailles. Ça a démarré le 22. Le 22, ça devait être mercredi, je crois. En tout cas, ça se termine aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une journée grand public. Donc, si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi et que vous n'êtes pas loin de la Porte de Versailles, je ne peux que vous inciter à vous rendre à Vivatech. Surtout que cette édition 2024, elle fait largement une place à l'intelligence artificielle, dont les avancées technologiques révolutionnent de nombreux secteurs. Et puis, ça alimente quand même pas mal de débats, bien évidemment. Alors, parmi les autres sujets clés du moment, il y a aussi la mobilité qui est également mise en avant dans ce fameux salon Vivatech. Il y a aussi ce qu'on appelle la Sustainable Tech. Vous aurez compris que je pèlerai toujours avec l'anglais. L'idée, c'est un petit peu de comprendre l'impact de la technologie sur les transitions actuelles, sur les défis de demain, bien évidemment. Donc, on est vraiment sur un salon qui nous parle du présent et qui nous parle aussi d'avenir, et c'est ça qui est assez intéressant. Il y a eu un baromètre qui permettait d'estimer, de mesurer la confiance des dirigeants d'entreprise dans la tech. Et selon ce baromètre, il y a 63% d'entre eux qui identifient l'intelligence artificielle comme la technologie la plus prometteuse pour l'avenir de leur entreprise. Elle occupe donc une place centrale dans ce salon Vivatech, avec notamment un espace qui est dédié aux innovations qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors parmi elles, il y en a plusieurs qui sont mentionnées dans l'article Futura Science que je récupère et qui a été mis en ligne il y a quelques minutes. Il y a notamment Vitafluence, qui est une solution subventionnée par la fondation Bill Gates. L'idée, c'est de réduire de 10 ans le temps de recherche de nouveaux médicaments pour un budget divisé par 10. Donc effectivement, présenté comme ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a également la Esper Hand. C'est une prothèse intelligente qui est alimentée par l'intelligence artificielle. Les entreprises françaises dans le domaine, elles ne sont pas en reste également. Par exemple, il y a Everdian qui est spécialisé dans l'anticipation, la détection et la gestion des crises, notamment l'identification de fake news. Alors ça, effectivement, ça serait assez intéressant. De plus, les débats organisés avec les spécialistes les plus pointus et les plus expérimentés vont pouvoir mettre en lumière tout le potentiel de l'intelligence artificielle, à la fois ses avancées positives ainsi que les solutions novatrices dans les domaines tels que la santé, la cybersécurité, le climat, l'industrie, l'éducation et ainsi de suite. C'est ce qu'explique Maurice Lévy, qui est le président du conseil de surveillance de Publicis Group, et Pierre Louette, qui est le PDG du groupe Les Échos, le Parisien. En fait, ce sont les deux co-organisateurs de l'événement. Alors, 51 milliards de dollars, c'est le montant record des fonds levés par les startups de ce qu'on appelle la Sustainable Tech. Ça montre un petit peu comment les innovations peuvent permettre de répondre aux défis sociétaux et environnementaux majeurs. Vivatech, ce salon consacre d'ailleurs plus de 10% de sa surface d'exposition sur le sujet, avec notamment un nouvel espace qui lui a été sponsorisé par EDF, qui va réunir des start-up et des associations et des centres d'innovation. Cet espace s'appelle Impact Bridge. Les entreprises françaises, elles sont particulièrement actives. On nous dit qu'elles sont aussi vraiment reconnues dans ce domaine. Il y a plusieurs entreprises que vous pourrez éventuellement découvrir si vous vous rendez cet après-midi au salon Vivatech Porte de Versailles. Le croisement entre l'intelligence artificielle et cette fameuse Sustainable Tech, ça donne d'ailleurs des ailes au secteur de la mobilité. Il y a des lancements et des exclusivités qui ont été programmées pour le salon cette année, comme le Concept Car Inception et son volant futuriste imaginé par Peugeot, des solutions de mobilité aérienne innovantes présentées par Airbus, les aéronefs taxis électriques de Volocopter, le transport écologique de marchandises qui a été réinventé par une start-up qui s'appelle Flybox. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on est vraiment sur des sujets qui sont très actuels et très futuristes, bien évidemment. Donc, vous avez la possibilité de vous rendre Porte de Versailles à Vivatech, allez-y, ça ne peut être que vraiment intéressant et vous pouvez peut-être ensuite nous envoyer quelques images ou quelques impressions si vous avez la possibilité de pouvoir y aller. En parallèle, comme on parle beaucoup d'intelligence artificielle, il y a deux articles que j'ai trouvés ces derniers jours où on est sur un aspect peut-être plutôt polémique. Alors le premier, c'est Elon Musk qui réagit concernant la dernière version grand modèle, la dernière version de son grand modèle de langage qui est baptisé GPT-4.0, c'est bien sûr dans ChatGPT, c'est l'entreprise OpenAI. Cette nouvelle version a été lancée il y a quelques jours. C'est destiné à tous les utilisateurs, c'est même sans abonnement. Et ça a fait réagir Elon Musk sur sa plateforme X. En fait, au départ, faut pas oublier que Elon Musk était l'un des cofondateurs d'OpenAI. Il dirige maintenant sa propre entreprise d'intelligence artificielle qui va développer un modèle qui s'appelle Grok. Alors, Elon Musk, il a répondu à une vidéo de présentation de cette nouvelle version de ChatGPT en indiquant en fait qu'il trouvait la démonstration gênante à cause de sa nouvelle capacité à réagir rapidement aux questions posées à l'oral et à sa voix féminine. Eh bien, il y a eu de nombreux internautes qui n'ont pas hésité à qualifier ce nouveau modèle de petite amie intelligence artificielle. En fait, on compare ça à un film que vous avez peut-être vu, qui a une dizaine d'années à peu près, qui s'appelle Her. L'idée, c'est d'un écrivain qui tombe amoureuse d'une intelligence artificielle. Ça a une dizaine d'années, ce film, c'était assez, clairvoyant, et on anticipait pas mal des choses qui commencent à se mettre en place aujourd'hui. Et donc, Elon Musk, il a annoncé une mise à jour majeur de son propre produit qui s'appelle donc Grok, qui devrait, cette nouvelle version, être diffusée autour du 21 juin, nous dit-on, mais il n'a pas précisé si cette prochaine version de sa propre intelligence artificielle aura des fonctionnalités similaires au nouveau ChatGPT. Et puis, dans un autre tweet, Elon Musk, il a accusé ChatGPT de vouloir détruire l'humanité, rien que ça, en réaction à une autre publication qui concerne le nouveau film La planète des singes. Il a indiqué qu'il y avait une bataille actuellement entre les extinctionnistes, ceux qui veulent un holocauste de l'humanité, nous dit-il, et les expansionnistes, ceux qui veulent atteindre les étoiles, comprendre l'univers. Et donc, dans un tweet, il a expliqué « Imaginez maintenant si la philosophie extinctionniste était programmée dans l'intelligence artificielle. » En fait, c'est inutile d'imaginer, c'est déjà le cas avec ChatGPT et Gemini. Très bien, il est déjà assez pessimiste sur les nouvelles versions qui sont mises en place au niveau de l'intelligence artificielle. Lui, il se voit bien sûr un petit peu comme sauveur de l'humanité. Bah écoutez, on va pouvoir juger sur pièce, parce qu'on va attendre quelques jours et voir ce que propose son nouveau modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle Grok. Et puis on verra par la suite qui a raison, qui a tort. Mais on voit très bien que ça grogne un peu. Il y a peut-être, peut-être une histoire d'argent derrière. J'en sais rien. Je ne sais pas. On ne sait plus à force. Allez savoir. On va encore parler de l'intelligence artificielle qui, cette fois, a fait mis en colère Scarlett Johansson. Ça sera juste après ce titre qu'on va écouter sur l'antenne de Graphite, 06 95 065 026, si vous souhaitez réagir sur SMS, par SMS en direct, je vais y arriver. Vous écoutez Graphite, à tout de suite sur l'antenne.
Is it purpose, a moment, or chosen for life? Either way, I think I'll take a deep soul. Either way, I think I'll see a sweet glow. Will come out of my shoes. Funny how your feet show. Funny how the time goes. Funny how the seeds grow. Not one, no minded assumption. We was at the function. Pray the morning don't come, cause there's no time sooner. I can see right through you. Never televised dreams, so I made one come. Until they say I'm done. Until I see no sun. Got me lost in your rhythm, Middle East and drums. And we can leave all of our problems, just leave them come. I'm running to the night until the daylight shun.
This ain't no interlude. I know I've done some wrong, but I got problems too. Yeah. I got problems too. I know I can move with who is true.
C'était Wesley Joseph avec Sugar Dive sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite tous les samedis, non pas tous les jours heureusement, tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous suivent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet. J'étais en train de chercher pendant qu'on écoutait Wesley Joseph d'autres articles d'actualité scientifique parce qu'il y a pas mal de choses avec cette bonne nouvelle qu'on va évoquer juste après l'intelligence artificielle et Scarlett Johansson. En fait, c'est une voix qui ressemble à s'y méprendre à celle de Scarlett Johansson. ChatGPT va changer de tonalité, c'est ce qu'a annoncé l'entreprise OpenAI que l'actrice accuse, ainsi que son... Elle accuse ChatGPT et son directeur général Sam Altman d'avoir volontairement et à son insu copié sa voix. Nous avons entendu les interrogations sur la manière dont nous avons choisi les voix pour ChatGPT. C'est ce qu'a souligné en début de semaine OpenAI, l'entreprise qui a développé donc ce modèle d'intelligence artificielle. Par conséquent, nous travaillons, dit-il, à suspendre l'utilisation de Sky, qui interagit vocalement avec les internautes pendant que nous y répondons. C'est ce que précise l'entreprise. La voix de Sky n'est aucunement une imitation de celle de Scarlett Johansson. C'est ce qu'a assuré OpenAI dans un article posté sur son blog, assurant que cette voix avait été développée en se basant sur la voix de différentes actrices. Mais Scarlett Johansson, elle accuse OpenAI et son directeur donc général Sam Altman d'avoir volontairement copié sa voix, son insu, l'obligeant à engager un avocat afin d'en obtenir la modification. En septembre dernier, j'ai reçu une offre de Sam Altman qui souhaitait m'embaucher pour être la voix de l'actuel système ChatGPT 4.0. C'est ce qu'elle indique, Scarlett Johansson, dans un communiqué. Il a dit qu'il pensait que ma voix réconfortait les gens et elle souligne qu'elle avait alors décliné l'offre. Quand j'ai entendu la démo qui a été publiée, j'ai été choqué, en colère et incrédule que M. Altman ait mis au point une voix qui ressemblait si étrangement à la mienne que mes amis les plus proches et les médias ne pouvaient pas faire la différence, c'est ce que raconte l'actrice. Et elle ajoute que M. Altman avait insinué que la similitude était intentionnelle en tweetant un seul mot, Her. Her, on revient à ce fameux film que j'évoquais tout à l'heure, parce que Scarlett Johansson, elle avait incarné la voix du système d'intelligence artificielle dans ce film. Et les créateurs de ChatGPT n'ont jamais caché s'inspirer de ce film. L'actrice explique avoir alors été obligée d'engager un conseiller juridique qui a écrit deux lettres à M. Altman et à OpenAI. Par conséquent, OpenAI a accepté à contre-cœur de supprimer la voix Sky, donc la voix qui est apparemment celle de Scarlett Johansson. À une époque où nous sommes tous aux prises avec les deepfakes et la protection de notre propre image, notre propre travail, notre propre identité, je pense que ces questions méritent une clarté absolue, c'est ce qu'elle a encore déploré. Elle dit attendre avec impatience que soit adoptée une législation appropriée pour contribuer à garantir la protection des droits individuels. Alors OpenAI de son côté, eh bien, l'entreprise a détaillé la manière dont elle a travaillé avec des acteurs professionnels afin de créer plusieurs voies numériques. Cette annonce intervient quelques jours après qu'OpenAI a annoncé dissoudre son équipe, dont la mission était d'atténuer les éventuels dangers à long terme d'une intelligence artificielle trop intelligente. L'annonce avait été marquée par le départ d'un des cofondateurs de l'entreprise, à savoir Ilya Sutskever, ainsi que du responsable de l'équipe, à savoir Ian Lake. OpenAI doit devenir une entreprise qui place la sécurité de l'intelligence artificielle générale avant toute autre considération. C'est ce qu'avait écrit Ian Lake il y a quelques jours. Sam Altman, donc le dirigeant d'OpenAI, avait exprimé son regret de le voir partir, ajoutant qu'il a raison, nous devons faire plus. C'est notre objectif, dit-il. L'entreprise a présenté il y a quelques jours la nouvelle version de son produit phare, donc ce fameux GPT 4.0, avec des performances améliorées, un comportement qui se veut plus proche des humains, qui rend en plus cette version gratuite pour les utilisateurs. À l'avenir, vous devez vous attendre à disposer d'encore plus d'options, car nous comptons ajouter des voix à ChatGPT pour mieux répondre aux intérêts divers et aux préférences des utilisateurs. C'est ce qu'a ajouté OpenAI sur son blog. Donc affaire à suivre d'un point de vue judiciaire. Et je ne pensais pas que dans cette émission Biotine, nous parlerions de Scarlett Johansson, mais que ce que voulez-vous. Tout arrive, mais tout arrive dans cette émission. La science est partout. Voilà, comme ça on le sait, on l'a assez dit, bien évidemment. Alors, je vais reprendre mon téléphone parce que je retrouvais donc cet article que je voulais évoquer parce que c'est quand même quelque part une bonne nouvelle, en tout cas une annonce qui était attendue. Il faut dire que c'était initialement prévu pour juillet 2000. Le développement en fait d'Ariane 6, parce que c'est bien d'Ariane 6 que l'on parle, ce développement a connu pas mal de difficultés, notamment à cause du Covid-19 et puis des défis techniques qui avaient entraîné de nombreux reports. Et le programme est aujourd'hui maîtrisé, nous dit-on, les questions techniques comme le calendrier. Et c'est donc dans ce contexte optimiste que le groupe de travail sur le lanceur Ariane 6, qui réunit notamment des représentants de l'Agence spatiale européenne, du CNES, hein, le Centre national des études spatiales, et d'Ariane Group, eh bien, ils ont annoncé que la première tentative de lancement d'Ariane 6 est prévue pour les deux premières semaines de juillet 2024. Donc, dans un peu plus d'un mois, un mois et demi, on aurait apparemment le premier lancement d'Ariane 6, nous dit-on. Alors, cette décision intervient après la réussite de plusieurs jalons du programme. Ça démontre, qui ont démontré en fait la solidité du lanceur, ainsi que la fiabilité et la robustesse de sa conception conforme aux attentes. Parmi les étapes clés, il y a un test critique qui avait été réalisé en novembre dernier avec succès lors d'une répétition générale à grande échelle. Et on a un système qui implique un allumage du moteur pour valider la phase de vol de l'étage principal d'Ariane 6, qui justement avait été testé et on a eu des bons résultats. Il y a d'autres essais qui ont réussi et ils ont vérifié le bon fonctionnement du lanceur, y compris des tests en conditions dégradées avec le moteur réallumable Vinci de l'étage supérieur et un test de remplissage de tous les étages accouru en décembre dernier. Après une revue complète, le lanceur et le segment au niveau du sol, ça a été mené sur 4 semaines. Eh bien, on a donc les prochaines étapes qui prévoient la finalisation de la revue de qualification du système de lancement mi-juin. Ensuite, il y aura la répétition générale du modèle de vol à Kourou, hein, en Guyane, bien sûr. Lors de cet essai crucial, Ariane 6 sera ravitaillé en carburant sur le pas de tir, puis vidé de son carburant en vue du lancement. Une date précise pour la première tentative de lancement sera annoncée lors du salon aéronautique de Berlin qui se tiendra dans une bonne semaine, à peu près, voire deux semaines, du 5 au 9 juin prochain, en la présence de tous les membres du groupe de travail. Donc on saura à ce moment-là la date véritable du lancement d'Ariane 6. Il y a quand même déjà un bon bout de temps qu'on parlait d'Ariane 6 dans cette émission. Ben oui, effectivement, parce qu'il y a eu des retards. Et donc là, apparemment, début juillet, on aurait la possibilité d'en savoir un petit peu plus sur le lancement d'Ariane 6. Et bien écoutez, tant mieux, ça peut être une bonne nouvelle, c'est une bonne information. Et ça nous fait quand même assez plaisir, bien évidemment. Alors, on ne pourra pas suivre ça en direct parce que début juillet, il n'y aura plus d'émission de Biotine, ça va être la pause estivale. Mais bon, je compte sur vous pour vous tenir informés de cette actualité. Bien sûr, sur Ariane 6. Voilà, alors ça, c'était donc du direct de chez Direct. Je reprends mes articles que j'avais prévus aujourd'hui. On va peut-être parler de l'été, tiens, 2024, et notamment les tendances météo. C'est bien parce que, voilà, je suis aussi Evelyne Delia dans cette émission. Je fais tout, en fait. On commence à avoir quand même quelques estimations de ce qui nous attend pour cet été 2024. Alors, on nous dit que les températures seront supérieures en moyenne de saison pour quasiment l'ensemble du monde cet été, y compris en France, ça promet. Une anomalie positive des températures qui s'annonce très marquée à l'ouest de l'Amérique du Nord, sur une grande partie de l'Amérique du Sud, à l'est de l'Asie, ainsi qu'en Antarctique. Seules quelques rares zones devraient connaître des températures sous les moyennes de saison. Ce sera notamment la pointe sud de l'Amérique du Sud et le Pacifique équatorial qui sont touchés par le phénomène refroidissant La Niña. Après les records qui ont déjà été battus ces derniers mois, on le sait, le taux d'humidité dans l'atmosphère s'annonce encore très largement au-dessus de la moyenne sur la quasi-totalité de la planète entre juin et août, et donc encore une fois en France. Les zones les plus humides, toujours par rapport à leur propre moyenne, devraient être le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Australie, l'Antarctique et l'est du Canada. En ce qui concerne la pluie, l'été 2024 sera sans doute marqué par des extrêmes dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y aurait de fortes pluies en Inde, en Indonésie et au nord de l'Amérique latine. Et puis il y aura un déficit marqué sur une grande partie de l'Amérique du Sud et au Mexique. Aucune anomalie n'apparaît pour le moment apparemment en France dans les prévisions. Le temps s'annonce plutôt ensoleillé sur une grande partie de l'Europe. Seul l'est de l'Afrique devrait être plus nuageux que la normale. Et enfin, les vents seront globalement plus forts que la moyenne l'été prochain. Pas d'annonce spécifique au niveau des vents en France. Donc voilà, on s'attend en clair en Europe et notamment en France, a un été plus chaud que la moyenne, avec pas nécessairement beaucoup d'inondations, beaucoup de sécheresses, pas nécessairement un vent marquant, mais on pense, et on se souvient de cet article qu'on avait évoqué il y a 3 semaines, je crois, ou il y a 15 jours, sur les estimations, les prévisions météo vis-à-vis des Jeux Olympiques. À Paris, oui, effectivement, on avait potentiellement un risque de canicule pendant cette zone-là, parce qu'au niveau des calendriers, c'est autour de la fin juillet et début août qu'on a des chiffres de température qui sont assez, assez inquiétants. Donc voilà, on nous fait des estimations comme ça. Écoutez, on verra ça, bien évidemment. On suivra ça. De toute façon, on sera les premiers concernés, donc on aura bien l'information, bien sûr. Allez, on écoute un autre titre sur l'antenne de Graphite et on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Lemon, c'était Automatic City sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez la possibilité, bien sûr, de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site Internet graphite.net, bien évidemment. Alors, comme on parlait un petit peu de ce qui nous attend cet été au niveau de la météo, cette annonce qui n'est pas vraiment réjouissante, le retrait des glaciers, c'est un phénomène mondial sous l'effet du réchauffement climatique et nombreux sont les glaciers du continent américain à être au bord de la disparition. Mais c'est le Venezuela qui est le premier pays d'Amérique à avoir officiellement perdu tous ces glaciers. Ce pays comptait 5 glaciers localisés dans la cordillère des Andes. Il y a un siècle, ces glaciers s'étalaient sur 1000 hectares de glace et ces derniers mois, les scientifiques avaient tout tenté pour sauver le glacier qui s'appelle la Corona, qui était situé sur le sommet du Humboldt. C'était à 4900 mètres d'altitude. Il y avait une couverture en maille thermique qui avait été installée en décembre dernier pour atténuer l'impact des rayons solaires. Il ne reste aujourd'hui que 0,4% de l'étendue d'origine du glacier, soit quasiment rien. Il n'y a désormais plus de doute que le peu de glace qu'il reste est condamné à disparaître totalement ces prochaines années. Un glacier est défini comme une masse de glace s'étalant sur au moins 10 hectares. Or, eh bien, la Corona s'étale désormais que sur 2 hectares, donc ce n'est donc plus officiellement un glacier. Il y a plusieurs scientifiques qui réclament désormais le retrait de cette couverture thermique parce que l'installation n'a plus aucune utilité, car la couverture bloque la croissance d'organismes comme les mousses et les lichens, mais surtout les matériaux en plastique se dégradent peu à peu et ça risque de contaminer l'environnement. Alors oui, effectivement, c'est plus un mal pour un bien, c'est un mal pour un mal. En voulant réparer un glacier dont la disparition était évidente, les scientifiques ont finalement créer un risque de pollution microplastique. On ne s'en sortira jamais en fait. Mais voilà, c'est donc le Venezuela qui est le premier pays de l'histoire à avoir perdu tous ses glaciers. Encore une illustration supplémentaire de ce réchauffement climatique. On en parle très très régulièrement dans cette émission. J'allais dire presque toutes les semaines, on a quelque part une illustration, un impact direct de ce dérèglement climatique que l'on constate de plus en plus. Et on est totalement impuissant en fait par rapport à ce qui se met en place, par rapport à ce qui est en train de se passer. Et ça un petit peu dommage. Alors, je voulais récupérer, d'ailleurs, j'avais vu un article, et là encore, c'est totale improvisation dans cette émission, j'ai pas de fil conducteur, mais je trouvais un article assez intéressant sur le site de Futura, qui parlait, on parle du soleil, des centrales solaires, je vais y arriver, excusez-moi. Et des moments où, voilà, où je bug. Et je trouvais cet article assez intéressant. Il a été mis en ligne ce matin parce que ça permettait d'avoir une idée un petit peu de ce qu'il peut y avoir en termes de centrales solaires et notamment de savoir quelles sont les centrales solaires les plus importantes au monde, tout en sachant que depuis une dizaine d'années à peu près, la production d'énergie solaire, donc du solaire photovoltaïque, a littéralement explosé entre 2010 et 2020. Elle a pratiquement été multipliée par 30. Donc c'est quand même assez impressionnant. Le fait surtout, en fait, de plusieurs centrales tellement énormes qu'on appelle des gigacentrales qui sont installées essentiellement, on les installe essentiellement dans les régions les plus ensoleillées de la planète, et notamment dans des régions désertiques ou semi-désertiques. Et donc dans le classement des plus grandes centrales solaires au monde, il n'y a pas de site américain. Le plus grand du genre, c'est la centrale qui se trouve dans le désert du Nevada. Une puissance installée de l'ordre de 800 mégawatts, ce qui est quand même assez intéressant. C'est juste un peu moins qu'une autre centrale qui a été installée en Espagne. Le plus grand site d'Europe, c'est une puissance de 850 mégawatts, mais qui ne figure pas dans le top 10 des plus grandes centrales solaires du monde. Non, c'est pas du tout là. Alors, en France, on a la plus grande centrale solaire urbaine d'Europe, c'est du côté de Bordeaux, sur l'ancien site d'une décharge. Il y a environ 135 000 panneaux solaires qui ont été installés. C'est quand même énorme, 135 000 panneaux solaires, et ils produisent chaque année 75 000 mégawattheures d'électricité renouvelable, ce qui n'est pas négligeable. Mais les plus grandes centrales solaires au monde se trouvent finalement toutes un peu concentrées sur le continent asiatique. À l'exception d'une centrale qui se trouve en Égypte, qui se présente comme le plus grand parc photovoltaïque d'Afrique, qui a été mis en service en 2019 et qui s'étend sur plus de 37 km². On est sur des chiffres qui sont totalement impressionnants. Enfin, c'est assez, voilà, je sais pas, on n'a pas de repère quelque part, on n'a pas de référence pour avoir une idée un petit peu de ce que cela peut représenter, mais vous pouvez trouver évidemment des photos sur internet, ça vous donne un petit peu une idée déjà de ce qu'est une centrale solaire. En fait, l'idée, c'est tout simplement de recouvrir des grands champs avec des panneaux solaires, hein. C'est aussi bête que ça quelque part, mais ça nous donne même difficilement une idée un petit peu des dimensions qui sont assez importantes. C'est en Inde, en fait, dans le désert du Thar, qu'a débuté en 2015 la construction de celle qui était appelée à devenir la plus grande centrale solaire du monde. Elle s'appelle le Badla Solar Park. Elle recouvre aujourd'hui environ 57 km², hein, c'est plus que la superficie de la ville de Bordeaux, par exemple. Donc là, ça nous donne une idée. 57 km² pour 2,7 gigawatts de puissance installée, avec pour terme l'objectif d'atteindre les 3,5. Donc là, on en est à 2,7 et on veut atteindre 3,5. Donc on va peut-être encore rajouter des panneaux solaires. On n'est plus à ça près, hein, on en est. Il faut noter tout de même que les tempêtes de sable qui soufflent régulièrement dans le désert peuvent entraîner une réduction de la production pouvant aller jusqu'à 40%. Eh oui, parce qu'effectivement, s'il y a du sable sur les panneaux solaires, ça devient moins efficace et moins productif. Il y a différentes solutions de nettoyage qui sont d'ailleurs testées. Et toujours en Inde, du côté de Pavagada, c'est autour de plusieurs villages que s'est développée une centrale gigantesque d'une superficie de 53 km². Là aussi, c'est légèrement tout plus petit que l'autre. Le tout accompagné de revenus providentiels pour les agriculteurs locaux qui ont accepté de louer leurs terres à l'opérateur de la centrale. Donc on ne produit pas de céréales, mais les agriculteurs, ils ont une petite rente assez intéressante. Écoutez, chacun fait ses choix. Il y a deux autres immenses centrales solaires qui ont été bâties en Inde, notamment le Kurnool Ultra Mega Solar Park. Et en fait, il y a environ 4 millions de panneaux solaires qui sont posés sur 24 km². Non mais 4 millions de panneaux solaires. Déjà quand on passe à côté de maisons qui sont installées de panneaux solaires, on en voit déjà, c'est déjà assez grand quand ils en ont 3 ou 4. Là, j'ai dit quoi ? J'ai dit 4 millions. Je ne sais pas, on ne se rend pas compte. Regardez sur internet, il doit y avoir des photos magnifiques à mon avis. Enfin magnifiques, impressionnantes on va dire, qui permettent un petit peu de voir de ce qui est prévu. Alors, on parle de l'Inde. L'Inde n'est que, quelque part, le cinquième producteur d'énergie solaire au monde. C'est la Chine qui arrive de loin en tête. La deuxième plus grande surface solaire au monde se trouve actuellement en Chine, à proximité du barrage de Longyangsha. C'est à 3000 mètres d'altitude. C'est un site qui fait 15 km sur 18 km. Donc, vous voyez quand même l'étendue, c'est assez impressionnant. Les travaux ont débuté une bonne dizaine d'années. Le site ne cesse depuis de s'agrandir, bien évidemment. Et la troisième plus grande centrale solaire au monde se trouve également en Chine, dans le désert de la province de Qinghai. C'est un autre parc solaire qui a été construit en à peine un an. 7 millions de panneaux solaires, c'est quand même assez étonnant. Donc voilà, on est plutôt sur des centrales solaires qui sont au niveau de l'Asie, essentiellement l'Inde, la Chine. Il y a aussi les Émirats Arabes Unis qui ont également eu envie de profiter de leur ensoleillement pour produire l'énergie. Ils ont construit ces dernières années quelques-unes des plus grandes centrales solaires du monde. Le parc solaire Mohammed bin Hashim Al Maktoum au sud de Dubaï. Alors il y a au final 11 millions de panneaux qui seront répartis sur 77 km². 77 km², on nous dit que c'est la superficie de Strasbourg. C'est comme si on recouvrait tout Strasbourg de panneaux solaires. C'est quand même assez étonnant. Ils ont peut-être de la place, à mon avis. Mais voilà ce qui est prévu également aux Émirats. Et voilà. Et donc, on est sur une énergie solaire alternative. La grande difficulté, bien sûr, des panneaux solaires, c'est que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Et l'autre difficulté, c'est que l'électricité, on ne peut pas nécessairement la stocker. Donc, on doit l'utiliser au moment où on la produit. Alors, dans ces pays, si on considère qu'il y a tout le temps du soleil, effectivement, on peut utiliser l'électricité de façon quasi continuelle, sauf la nuit, bien sûr. Mais voilà, il y a des technologies qui sont développées pour essayer de faire en sorte que le rendement de ces panneaux solaires soit amélioré, bien évidemment. Mais voilà, regardez sur Internet, c'est assez fascinant de voir ce qu'on appelle une ferme solaire. Il y en a quelques-unes en France, hein, comme on vous l'a dit. Mais alors, elles sont vraiment rikiki à côté de ce qui nous attend en Chine dans quelques années, en pleine construction, bien évidemment. On écoute un dernier titre avant de nous dire au revoir sur l'antenne de Graphite. Tout de suite.
The fame, it's temporary. I say it's okay. You're not the kind to take up my space. I love the way you say the things you say. It's just the money, things that you do. It takes a girl, girl, a bit of move. Some need emotion, I'll take the thrill. Let's make a deal, I'll keep my lips sealed.
Eh oui, taisez-vous, I won't tell, c'était Baby Rose sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, tous les mardis matins pour la rediffusion à 10h. Nous sommes en direct sur l'antenne de Graphite, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. On fait un petit peu le point sur l'actualité scientifique, on feuillette comme ça le grand journal de l'actualité scientifique. On parlait donc des centrales solaires juste avant Baby Rose et centrales solaires, production d'électricité, et on a appris enfin que ça y est, ça avance. ça avance au niveau de la France. Hein. 25 ans qu'aucun réacteur nucléaire n'avait démarré en France, mais on a appris il y a quelques jours qu'EDF a commencé des opérations de chargement du combustible dans un réacteur à eau pressurisée de troisième génération construit en Normandie. C'est pas n'importe lequel, c'est le fameux EPR de Flamanville. Ça y est, enfin, rappelons que le chantier de construction de ce réacteur nucléaire d'une puissance de 1650 MW avait débuté en 2007. Et au fil des années de retard, bien évidemment, le budget de l'EPR de Flamanville avait littéralement explosé. Au départ, c'était 3 milliards et on est passé à 13 milliards d'euros. Mais à la fin de l'année dernière, EDF avait pu procéder à des tests grandeur nature. Et après plusieurs consultations du public et la diffusion du projet de décision d'autorisation en mars dernier, eh bien, l'autorisation de mise en service est finalement tombée, a été assurée, cette autorisation par l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Alors, le combustible nucléaire avait été déjà prêt depuis plusieurs semaines. Il n'a fallu que quelques jours à EDF pour charger dans la cuve de l'EPR de Flamanville 241 assemblages d'uranium enrichi de chacun 5 mètres de long. Ils pèsent chacun 800 kilos. La cuve va pouvoir être fermée. EDF pourra ensuite lancer ses essais, d'abord sans réaction nucléaire et avec une montée en pression et en température qui mènera à la première fission. Les experts parlent de première divergence et qui n'interviendra qu'une fois que l'ASN, hein, l'autorité de sûreté nucléaire, aura validé toutes les étapes du processus. Il faudra ainsi encore attendre en principe jusqu'à cet été pour que l'EPR de Flamanville soit raccordé au réseau. Il ne fonctionnera alors qu'à 25% environ de sa puissance. Il y a plusieurs étapes qui devront encore être franchies et validées par l'ASN pour qu'il devienne bien le réacteur nucléaire le plus puissant en fonctionnement en France. Il devrait atteindre sa pleine puissance à la fin de cette année 2024. Un an et demi après son lancement, eh bien, l'EPR de Flamanville connaîtra son premier arrêt de plusieurs mois pour subir un contrôle complet. Il aura alors en principe produit 14 TWh d'électricité, donc le plus sophistiqué des réacteurs nucléaires en France, monte en puissance. Voilà, ça y est, 17 ans après le début des travaux et pas moins de 12 ans après la date qui avait été annoncée, eh bien, on y arrive. C'était prévu en 2012, on est en 2024, écoutez, nous étions patients. Donc voilà, c'est lancé. Et puis on suivra bien sûr l'actualité de l'EPR de Flamanville prochainement dans cette émission. Allez, c'est la fin de Biotine. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission. On continuera comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On s'intéressera notamment aux intentions de la Russie, des intentions qui interrogent après la découverte de gisements de pétrole en Antarctique. Et donc voilà, il y a certains qui lorgnent là-dessus. Peut-être la Russie, on suivra ça et on regardera ça. On évoquera ça, en tout cas, dans l'émission de la semaine prochaine. D'ici là, bien, vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir écouter toutes les émissions de Graphite sur l'antenne 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et puis la possibilité de pouvoir suivre et récupérer tous les podcasts de toutes les émissions sur le site internet graphite.net. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Graphite. Merci de votre attention, à bientôt, au revoir.